Vous écoutez
RMC.
Back.
RMC Estelle Midi.
Oui, monsieur, indirectement.
14h03 sur AMC, on va poursuivre Estelle Midi avec l'histoire du jour, ou plutôt les deux histoires du jour. Ça se passe dans les Yvelines et dans les Bouches-du-Rhône, où deux gamins de 7 ans terrorisent littéralement leurs petits camarades et leur institutrice. Des signalements ont été faits par les parents d'autres élèves, des plaintes ont été déposées, mais rien ne bouge. Rémi, que se passe-t-il?
Alors, il y a d'abord cette histoire survenue à l'école primaire de Plan de Cuc, on est près de Marseille. En cause, un élève de 7 ans, atteint de troubles du comportement, qui serait violent physiquement et verbalement envers des camarades et des professeurs. Pas moins de 19 signalements ont été effectués par la direction de l'école. 4 plaintes ont été déposées, selon le porte-parole des parents d'élèves. Même situation, ou presque, dans le groupe scolaire Henri Dunant. Cette fois, on est à la Selle Saint-Cloud, dans les Yvelines. Là encore, un élève du même âge, il a 7 ans, rendrait la vie impossible à ses enseignants et à sa camarade. Lui aussi souffre de troubles du comportement. Il est hyperactif. Des camarades parfois frappés. L'un d'entre eux aurait même été menacé avec une paire de ciseaux. L'institutrice de ces enfants est aujourd'hui en arrêt maladie. Dans les deux cas, les parents des élèves perturbateurs refusent de les changer d'établissement. Et pour ça, ils se rangent et font valoir la loi de 2005, une loi qui permet à ces enfants d'être scolarisés dans une école normale. C'est à l'État de mettre en place les moyens pour qu'ils puissent y être accueillis. Ce n'est pas le cas.
Alors avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on entende Marvin. Marvin, il nous appelle de la Selle Saint-Cloud et en fait son fils est dans la classe du petit garçon dont il parle de 7 ans qui terrorise justement tous ses petits camarades. Bonjour Marvin.
Bonjour tout le monde, bonjour l'équipe.
Bonjour.
Marvin, c'est vraiment très dur ce que vit votre fils, ou alors c'est des petites phrases malencontreuses entre gamins?
En fait, le problème, c'est que moi, je travaille en centre de loisirs. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans en centre de loisirs. Donc, les petites phrases entre gamins, on les connaît tous. Les petits charmailleries entre gamins de 7-8 ans, il n'y a aucun problème. Ça, on sait les gérer. Mais là, le problème, c'est que c'est un peu plus important parce qu'il y a des menaces avec des ciseaux. Ils montrent des choses, en fait. En fait, moi, les gamins, mine de rien, ça reste un enfant de 7 ans. Donc, voilà.
Bien sûr.
Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est un enfant. Mais le problème, c'est que là, le problème, c'est les parents, en fait. On a signalé aux parents. Les parents sont très agressifs, sont très dans le déni complet. Il a quand même changé d'école 4 fois en 2 ans. Du coup, ils nous le mettent dans notre école. Bon, après, voilà, moi, il n'y a pas de problème. Ça reste, comme je vous l'ai dit, ça reste un enfant.
Bien sûr, un enfant de 7 ans.
Il est en souffrance, je pense, plus qu'autre chose, cet enfant. Et en plus de ça, mine de rien, ils transmettent cette souffrance à nos enfants, à nous. Et là, ça devient un peu compliqué parce qu'on a fait quand même pas mal de signalements. Je passe mes après-midi au téléphone avec l'inspecteur académique ou même avec sa supérieure au-dessus. Je saurais pas vous dire le terme exact de sa supérieure. Mmh. Mais voilà, il n'y a rien qui est mis en place. Enfin, et puis les parents surtout, c'est surtout les parents qui refusent catégoriquement tout ce qu'on leur propose.
S'il a changé quatre fois d'école, ça veut dire qu'on a déjà quelque part dit aux parents, on peut plus accepter votre enfant.
C'est ça, en fait, le problème.
Mais la loi les y oblige.
La loi, en fait, je vais aller même plus loin. Il y a eu des procès contre l'inspection académique contre cette famille-là.
Mais il a 7 ans, gamin.
La loi de 2000. Oui, mais c'est pas le gamin.
Oui, mais 7 ans, on s'en fout. Il peut pas.
Enfin, 7 ans, tu peux pas terroriser une maîtresse, par exemple. Enfin, 7 ans, quoi.
Non, mais si tous les autres parents d'élèves se plaignent du comportement,
je sais, mais ça paraît dingue.
Tu peux pas répéter 10 fois de suite, il a 7 ans, il a 7 ans. S'il fout le bordel à 7 ans, ça handicape tous les autres enfants. Donc, moi, j'ai envie de dire des autres enfants, ils ont 7 ans, les pauvres, et pas simplement de celui qui est l'agresseur. Il a 7 ans, tu vois. Ils ont tous 7 ans dans la classe.
Allez-y, Marvin.
Et le problème, c'est que la maîtresse aussi a voulu parler aux parents. La mère est complètement, elle est complètement dans le déni, en fait, la maman. Parce que moi, en fait, le papa, je le connais pas trop, je l'ai pas trop aperçu, mais la maman, on l'aperçoit souvent devant l'école. Elle est dans le déni, elle comprend pas pourquoi on s'en prend à son enfant, que c'est l'éducation.
Quand on lui dit qu'il attaque avec des ciseaux, elle comprend ou pas, la mère?
Je comprends bien, Daniel, mais moi, je suis pour rien.
Je fais
que relater ce que j'entends. Moi,
c'est fou, ça.
Exactement. Ça devient fou. En fait, j'ai l'impression qu'on attend le drame pour pouvoir agir. Et j'ai pas envie d'attendre que mon fils se prenne un coup de crayon ou un coup de ciseau. Et qu'il y a un problème. Parce qu'après, ça sera à notre niveau. Moi, je suis quelqu'un de très patient. Mais à un moment donné, la patience, ça va atteindre ses limites et ça va aller plus loin parce qu'on a quand même posé des plaintes. On a été jusqu'à l'inspection académique. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir de manière officielle pour pouvoir que ça évolue. Mais ça n'évolue pas. Donc, moi, j'ai dû même prendre moi sur mon argent pour prendre une prof à domicile pour rattraper le retard parce que je refuse catégoriquement que mon fils ait du retard à l'école. C'est primordial.
Bah oui, on vous comprend.
En plus, avec le Covid, il y a eu deux ans d'arrêt. Deux ans d'arrêt d'école. Donc là, il faut arrêter. Là, il faut peut-être trouver une solution adaptée à cet enfant et à cette famille.
Merci.
Ça pénalise tout le monde. Voilà.
Merci beaucoup, en tout cas, Marvin, pour ce témoignage. Ça nous permet de mieux comprendre la situation. Marvin, qui a un enfant scolarisé dans la classe que du petit gamin, extrêmement perturbateur. Merci. Marvin, la question qu'on vous pose, l'école doit-elle vraiment accueillir tous les enfants? Julien Damon, même s'il y a cette loi de 2005, on voit que parfois c'est compliqué.
Alors, l'école doit-elle accueillir tous les enfants? Aujourd'hui, légalement, oui. Le peut-elle? L'école peut-elle accueillir tous les enfants? Eh bien, je pense que non. Objectivement, ce qui nous est décrit là, enfin, c'est absolument apocalyptique, pardon, pour prendre un terme qui choque peut-être beaucoup, mais enfin, on est là en train d'avoir un gamin qui terrorise ses petits camarades, un gamin qui terrorise l'enseignante qui est en arrêt maladie, un gamin qui menace les autres de façon extrêmement violente. Alors, je sais que l'immédiat... comment appelle-t-on ça, là? L'immédiate réaction de dire, ah, bah, c'est un petit, 7 ans, et deuxième chose, c'est peut-être pas de sa faute, c'est peut-être ses parents, etc., etc. Eh bien, changeons la loi, je vais être très dur, pour que ce type de garnement ou de sauvageon junior...
Non, il a des troubles du comportement.
Il n'y a pas besoin d'être agrégé de psychiatrie pour saisir qu'il y a des difficultés, ce gamin.
Ce qu'on appelle un handicap.
Non, mais très bien.
Il a ce qu'il est défini comme tel.
Je ne sais pas, moi, je ne suis pas sur le cas des faits, je juge juste en tant que parent, observateur de ces questions scolaires qui se dégradent, que même les enseignants sont dépassés au point de devoir eux-mêmes quitter la salle, puisque c'est le cas de cette enseignante qui est à côté. Mais c'est pas une question de moyens, on va pas être un CRS derrière Sac Chauvageon à partir de la maternelle.
Il est malade.
Mais je ne sais pas s'il est malade, mais on me dit ça très bien.
Il a des troubles psychiatriques.
D'ailleurs, je vais être très clair.
Planter un enfant avec un ciseau, excuse-moi, enfin, tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas.
Et alors, moi, ce qui m'empêche, c'est ce qu'a dit Marvin. Je ne veux pas que mes autres gamins se voient plantés par le ciseau de ce petit Chauvageon qui a été viré. On saisit aussi, au-delà de l'inspecteur d'académie, on saisit l'aide sociale à l'enfance. On a parlé là de signalement, on fait des informations préoccupantes auprès de l'aide sociale à l'enfance. Et ce gamin,
donc, si vous avez on a un enfant handicapé, c'est à l'aide sociale à l'enfance de gérer ça.
Excuse-moi, mais c'est pas une question de handicap.
Mais c'est
plein de handicaps. Non, mais tu dis ça. T'as le sujet de l'école inclusive. L'école inclusive, si on met tous les gamins ensemble, c'est le grand principe. Et ben, dans certains cas, j'estime qu'un enfant qui a des problèmes, un enfant qui est malvoyant, un enfant qui est malentendant, etc. Et ben c'est très bien qu'il y ait des auxiliaires
qui
sont mal payés et qui les aident. Et ben pour le moment, elles n'existent pas et elles sont insuffisantes. Donc, et là, en l'occurrence, elles ne serviraient à rien. Donc, ce qu'il faut derrière ce gamin, c'est pas de l'aide éducative, c'est quelqu'un qui le maîtrise. Et donc, ce gamin, il faut le foutre à un autre endroit que là où
il n'existe pas.
Et aujourd'hui, créons-le.
Aujourd'hui,
il y en a très peu. C'est très bien que
très peu. Mon sentiment, c'est qu'on fait de l'angélisme sur ces affaires. On est là en train de dire, ah, bah, le pauvre petit gamin, il est handicapé. Donc, il faut que tous les autres petits gamins supportent cela qui est absolument insupportable. Il faut l'écarter.
Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, en France, pour ces enfants, il n'y a pas de solution concrète.
C'est vrai pour le handicap en général. Oui. Mais là, en l'espèce, c'est d'ailleurs le mot handicap que l'on envoie. On a un gamin qui terrorise les autres. C'est pas un gamin qui a des difficultés scolaires. Un gamin qui a des difficultés scolaires parce qu'il a du mal à suivre. Je suis le premier à penser qu'il faut davantage de moyens pour l'aider, davantage de moyens pour financer les personnes qui l'aident aujourd'hui, les AESH, et elles ne sont pas assez financé, ok. Là, ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui le maîtrise.
Dans ta classe, c'est la faute à pas de bol.
Mais Estelle connaît très bien le sujet. Je la prends un témoin, je me permets. L'autisme. Tu as des enfants autistes, par exemple. Qui sont handicapés et qui peuvent avoir des comportements extrêmement violents envers eux-mêmes d'abord et envers les autres. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour ces enfants. Pour ces enfants. Je ne sais pas si c'est le cas dans l'affaire dont on parle. Mais si c'est le cas, qu'est-ce qu'on dit aux parents? Daniel, je termine. Qu'est-ce qu'on dit à ces enfants? Qu'est-ce qu'on dit à ces parents? Cet enfant, on ne peut pas l'accueillir. On n'a pas les moyens de l'accueillir. Vous le gardez chez vous. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
Les parents, semble-t-il, là, ils sont en train de dire qu'il ne se passe rien.
Alors, j'ai un autre exemple.
Ils sont peut-être dépassés.
Et Yael, je vous donne la parole dans un instant. Je voudrais juste qu'on prenne en ligne Simon. Simon, il nous appelle de Cheval Blanc dans le Vaucluse. Il est restaurateur et son fils, justement, souffre d'un autisme léger et a parfois été violent avec ses autres camarades. Expliquez-nous, Simon, ce qui s'est passé et est-ce que vous continuez à mettre votre fils dans une école publique ou est-ce que vous avez essayé de trouver un établissement spécialisé?
Bonjour à tous. Alors moi, on s'efforce de le laisser en école publique. Mm-hmm. Sauf qu'on a fait toutes les demandes via la MDPH pour une AVS. Pour,
c'est la maison du handicap.
Oui, voilà, exactement.
Et donc, AVS, c'est aussi la vie sociale.
Oui. Et il est aussi sur une liste d'attente pour le CESAD. C'est une sorte de centre qui s'occupe d'enfants en difficulté. Ouais. Et en fait, nous, on nous dit, il se passe rien en fait. Il a toutes les notifications. Il a 20 heures d'AVS par semaine. Il a le droit, mais on nous dit il y a pas de, voilà. Y a pas de personnel, il y a rien qui avance. Et donc en fait, on nous livre un peu à nous-mêmes. Et puis ça avance pas. Donc après, nous, dans notre cas, donc tous les cas sont différents. Hein.
Bien sûr.
Mais nous, ce qui l'aiderait beaucoup, c'est juste qu'il ait une personne qui s'occupe de lui. Alors, je ne sais pas exactement comment on forme les AVS, mais ce n'est pas non plus...
Il n'y en a plus, il y a une pénurie, elles ne sont pas assez payées.
Demander, quoi. En fait, il a juste besoin d'une présence en dualité avec lui et qu'on adapte sa façon d'apprendre. Parce que là, ça va faire un an qu'il n'apprend plus. Et donc, c'est un bien gros mot. On va en faire un illettré, quoi, si rien ne bouge. Donc après, on est un peu livré à nous-mêmes, quoi. Voilà, c'est.
Je comprends votre désarroi évidemment et le problème aussi c'est que l'État n'a pas assez créé de centres voilà et qu'on a voulu faire de l'inclusion à tout prix sans réfléchir aussi aux conséquences de parfois cette inclusion parce que il y a aussi beaucoup d'enfants autistes à qui ça fait un bien fou d'être à l'école et à la fin de leur scolarité on ne voit plus le handicap on ne le perçoit plus donc ça fait aussi avancer les enfants mais Simon vous dites pas quelque part si votre enfant a été violent avec les autres que malheureusement c'est un peu égoïste de le laisser à l'école, on va dire, parce que c'est compliqué aussi pour les autres enfants qui l'entourent. Même si, bien sûr, c'est votre enfant et vous voulez le meilleur pour votre enfant, et je comprends.
Et il est à l'école de la République, et la République a aussi son rôle à jouer. Alors en France, on a beaucoup de retard dans la prise en charge du handicap et des autistes en particulier. Mais nous, on a fait les démarches. On a fait toutes les démarches. On est allé voir aussi des grands docteurs qui s'y connaissent. C'est la partie un peu technique de la maladie. Bon, bref. Mais nous, on a fait les efforts, les déplacements. C'est lourd en kilomètres. C'est lourd sur la conscience aussi. Et on nous laisse. Un petit peu en état.
On vous laisse
seul. Je sais que c'est aussi dur pour les parents qui subissent le comportement des enfants, donc du mien, et moi même sa maîtresse qui a aussi un enfant autiste lourd cette fois, elle en a eu marre, elle était au bout du bout, on a fait des réunions, elle nous a expliqué, on est conscients de ça, mais on peut pas nous s'en occuper, on peut pas lui faire l'école. Il faut que l'État rattrape son retard. La République joue sa partie, quoi.
Bah merci beaucoup Simon voilà et Simon qui le dit effectivement son fils s'il avait d'autres solutions il le mettrait pas à l'école mais le problème c'est ça c'est qu'il y a pas d'autres solutions et Yael on se retrouve désemparé devant ces cas quand même
d'autant que ce sont vraiment des situations qui sont extrêmement douloureuses pour les parents vraiment elles sont d'une complexité mais abyssale et on ne mesure pas le parcours du combattant qu'il faut aux parents pour avoir le statut handicapé, pour bénéficier des aides, pour avoir quelqu'un à la maison. Et très souvent, ça n'aboutit pas non plus, ou alors ça prend énormément de temps. Mais il faut bien faire la distinction entre la situation de Simon, ce dernier auditeur qui parle de son enfant de 7 ans atteint de d'autisme, et la précédente situation, où on parle d'un enfant de 7 ans qui a des troubles du comportement. Mais je ne sais pas si on parle là d'un diagnostic psychiatrique qui a été posé, ou si on parle d'un enfant turbulent. Il y a un enfant turbulent.
Manifestement, c'est beaucoup plus que turbulent.
Oui, mais
dans les deux cas, à Marseille,
ne sais pas si c'est un diagnostic qui a été posé par un psychiatre ou un médecin. Un enfant de 7 ans qui est violent à l'école, ça veut dire quelque chose.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et ça veut dire qu'il est dans une famille dysfonctionnelle. Ça veut dire que son référent.
Sauf s'il est autiste.
Voilà. Ah oui. Je ne sais pas. Il n'y a pas de diagnostic qui a été posé manifestement sur cet enfant. Moi, je parle, on va dire, dans une généralité. Voilà. Où quand un enfant de 7 ans est violent à l'école, c'est parce que son référent à la maison est violent. Voilà. Et que son schéma qu'il reproduit, c'est la violence.
Sauf, évidemment, si
on est dans des situations d'autisme.
Mais là, manifestement, il y a un des deux gamins qui a renversé une bibliothèque. Enfin, on peut rien lui dire. Et rien n'est possible. Et il a des accès de colère incroyables.
Mais il faut s'attaquer à la racine du mal. Et vous avez raison quand vous parlez de l'ASE. D'assistante sociale, ça passe par là. Il faut savoir ce qui se passe dans cette famille.
Oui, voilà.
Et les aider.
Oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'AESH et il n'y a plus d'AVS parce qu'elles sont mal payées et que c'est un boulot difficile.
Absolument.
Et quand tu demandes à une AVS de s'occuper d'un gamin de 7 ans, je veux dire qu'effectivement, comme tu dis, t'es un sauvageon pour telle ou telle raison, bah c'est compliqué. Et ça, c'est un métier pénible. Hein,
pour le cas de Plan de Cuc, près de Marseille, cet enfant de 7 ans, là, les services de l'éducation nationale, suite aux plaintes, aux signalements et à la médiatisation de cette affaire, les services de l'éducation nationale ont annoncé aux parents d'élèves le passage à temps plein de l'AESH qui accompagne cet élève. Donc cet élève,
bon courage,
il est reconnu comme handicapé. Il bénéficie d'une AESH, sauf que l'AESH ne passait pas par sa volonté, mais que de temps en temps.
Ah, bah voilà.
Et voilà, donc c'est pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une déficience de l'État.
Absolument.
Mais là-dessus, il a bien dit cette affaire. Il y a deux sujets différents. Il y a le sujet de l'enfant de Simon, le sujet de l'enfant dans la classe de l'enfant de Marvin. Mmh. Dans un cas, on a Simon, un père, qui nous dit combien il est embarrassé par la situation de son enfant, embarrassé parce qu'il mesure les impacts des difficultés de son enfant sur les autres, et embarrassé parce qu'il rencontre des difficultés de tous parents avec des enfants déguisés. Dans l'autre, ce qu'on nous décrit, c'est que, absolument, semble-t-il, la mère en a un peu rien à foutre de ce qui se passe. C'est quand même embêtant.
Daniel Riolo, est-ce qu'il faut arrêter avec l'inclusion à tout prix ?
Non, mais là, effectivement, les cas, on le voit bien avec tout ce qu'on a entendu, sont trop différents.
Mais les conséquences sont les mêmes sur les autres.
Oui, non, mais en fait, je pensais, après le premier témoignage, que le débat et notre discussion allaient plus s'orienter vers ce que tu as appelé les sauvageons juniors, c'est-à-dire des parents qui n'en ont rien à cirer et qui laissent des gamins de 7, 8, 9 ans mettre le bordel dans la classe en toute impunité et que donc on allait dévier vers un problème d'autorité à l'école. Or, ça n'est absolument pas le cas, puisque si on parle de cas où, comme tu le disais, il y a un diagnostic qui est posé et une souffrance comme l'autisme, ça n'a absolument rien à voir. Là, on est dans toute autre chose et dans, effectivement, des enfants qu'on doit aider par un suivi spécialisé, quotidien, et non pas épisodique, comme le cas auquel tu faisais référence, Rémi. Donc, après, pour ta question, Estelle, j'avoue que c'est très délicat. Je suis pas sûr d'avoir tous les outils pour répondre à ça. Il y a et le bien-être de l'enfant, que tu ne peux pas couper totalement socialement, et le bien-être d'une classe qui ne peut pas être handicapée parce que un enfant ne peut pas.
Mais encore une fois, qui a la réponse ? Qui a la réponse à cette situation ? C'est l'éducation nationale.
Absolument.
Et certains parents aussi.
Si les parents sont démissionnaires, irresponsables, l'éducation nationale a moyen de sanctionner.
Il doit le faire.
Faire un signalement à l'aide sociale, par exemple, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a des voies légales.
On n'a pas entendu parler du signalement à l'aide sociale dans tout ce qui a pu être.
Peut-être parce que ce n'est pas le cas. Peut-être parce que cet enfant souffre effectivement de troubles du comportement.
Exactement. Et puis après, tu peux le mettre en école privée hors contrat, etc.
Je voudrais
juste qu'on prenne Stéphane Crochet, c'est notre invité sur ce débat. Il est secrétaire général du SEUNSA, un syndicat enseignant. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous pour ce sujet ô combien difficile dans Estelle Midi. On parle de ces deux cas, effectivement, d'enfants qui perturbent très largement leur classe, que ce soit dans les Yvelines et dans les Bouches-du-Rhône. Et on se demande si finalement l'école de la République peut vraiment accueillir tous les enfants.
Alors, non, tous les enfants ne peuvent pas être scolarisés à temps plein. Et surtout, tous les enfants, ou en tout cas certains enfants, ont absolument besoin d'accompagnement et de soins qu'ils n'ont pas aujourd'hui, parce que on s'est contenté d'une politique du chiffre de 100% d'écoles inclusives. Et ça, c'est un affichage, c'est un chiffre, mais on voit que nous avons dans nos classes des enfants qui ont besoin de soins, d'accompagnement, les enfants et leurs familles, parfois, et que il n'y a pas ces réponses-là, parce que l'école n'est pas en capacité, à l'intérieur de son groupe classe, où quand même le premier objectif est de faire des apprentissages, et donc dans des groupes de 20, 25 élèves, cette structure-là à temps plein n'est pas en capacité d'apporter les réponses, les soutiens, les aides dont certains enfants peuvent avoir besoin.
Mais c'est dur pour les profs, Stéphane, justement, ces situations, c'est dur à gérer. Est-ce que les profs sont formés à ça ?
Ces situations, ce sont des situations de souffrance additionnées, voire multipliées. C'est en général et avant tout la souffrance de l'enfant dont on est en train de parler, au comportement qui ne passe pas dans le milieu scolaire, la souffrance de ses camarades, la souffrance de ses adultes qui sont au milieu de multiples injonctions entre faire classe à tout le monde, assurer la sécurité physique et psychologique de chacun, et qui ont sous les yeux des enfants en souffrance. On n'a pas fait ce métier pour ça.
Ouais, ça j'imagine bien, Stéphane Crochet. Mais est-ce qu'il faut finalement que l'État crée des structures spécialisées, même plus que des AESH, et laisser les enfants se maintenir dans une classe classique, on va dire?
L'État, enfin notre pays a des structures de soins qui peuvent
mais pas
être
assez.
Ah bon,
pas assez.
Des IME, ah, je découvre.
Des instituts médico-éducatifs, des ITEP, dont le nombre de places s'est considérablement réduit ces dernières années.
C'est ça, bien sûr.
Et par ailleurs, au-delà de mettre forcément ces enfants soit à temps plein en classe, soit à temps plein en IME, les structures comme les IME et les ITEP pouvaient et peuvent toujours, d'ailleurs, quand ils existent encore, intervenir sur le temps scolaire. Mais ce sont des possibilités qui se sont considérablement réduites alors que nous avons l'impression d'avoir une explosion des besoins.
Oui, mais c'est comme dans beaucoup de secteurs. Mais en tout cas, merci beaucoup Stéphane Crochet d'avoir été avec nous. On comprend aussi la souffrance des enseignants de ne pas pouvoir faire cours correctement à ses élèves et finalement aux autres élèves qui les entourent. Vous avez énormément de messages sur ce sujet, oui. Mis sur l'appli RMC.
De nombreux messages. J'ai par exemple ce message de Oulala, c'est son pseudo sur Direct Studio, qui nous dit ces mômes perturbés doivent être accompagnés, .. C'est quand même, on ne parle quand même que d'un enfant de 7 ans. Redescendons sur Terre, s'il vous plaît.
Alors on vous a posé la question et qui est éminemment compliquée hein, sur le compte Twitter d'Estelle Midi. L'école peut-elle accueillir tous les élèves ?
Non, pour 72% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Ouais, donc c'est une très large majorité.